Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle émission de Psychoserie. Psychoserie, c'est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie, mais aussi la psychologie et la société, ce tous les dimanches à 11h30 à l'antenne de CHIZ 94.3. Tous les épisodes sont également disponibles en rediffusion en balado via notre page Facebook nommée Psychoserie. Notre émission, c'est pour le divertissement et la vulgarisation scientifique, donc il est important de mentionner que ça ne remplace en aucun cas une consultation auprès d'un professionnel de la santé et qu'aucun lien médecin-patient n'est formé lors de cette émission. Donc, si vous avez besoin d'aide, je vous invite à consulter auprès de votre médecin ou au centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval. Et si vous avez besoin de parler à quelqu'un maintenant, je vous réfère au centre de prévention du suicide au numéro 1-866-APPEL. Soit le 1-866-277-3553. Pour la prochaine demi-heure, vous êtes en compagnie de moi-même, Yasmine Nadifi. Je suis médecin résidente en première année de spécialisation en psychiatrie à l'Université Laval. Je suis accompagnée de mes deux collègues que j'invite à se présenter et à dire leur prénom. Ils sont rendus en quelle année de médecine? Et pour que vous appreniez à mieux les connaître, quel a été leur premier emploi étudiant?
Allô Yasmine, moi c'est Jade, je suis en troisième année de médecine là, ici à l'Université Laval. Puis mon premier emploi, ça a été là, dans la boutique de vêtements Clément. Je vendais là, des vêtements pour des petits bébés.
Oh, ça devait être tellement cute de vendre des petits vêtements là, à des enfants. Fait que
J'ai
merci.
vraiment, vraiment aimé l'expérience.
Fait que merci, Jade. T'es restée là combien de temps, Jade?
Suis restée là près de 9 ans.
Oh!
Oh,
OK.
Dieu, OK!
Ouais, j'ai vraiment là, adoré ce premier emploi.
Fait que t'es l'experte maintenant là, en vêtements pour bébés,
On peut presque dire ça.
Bon, fait que j'invite mon autre collègue à se présenter.
Bonjour, donc moi c'est Amina Otmani. Je suis étudiante en médecine à l'externat en ce moment. Puis mon premier emploi, c'était prof de danse. Donc j'étais au secondaire, puis je donnais des cours de danse aux petites filles du primaire. Puis j'allais dans une école pour filles. En cette journée de la femme, ça tombe bien. Puis sinon, c'est ça, j'ai tenu cet emploi vraiment longtemps, là. Après, j'ai arrêté d'en donner à l'école primaire. Je suis allée en donner à l'école, à une école de danse. Puis voilà.
Oh, wow! Puis c'est quel type de danse que tu as enseigné?
C'est du ballet jazz.
Ballet jazz. Fait que t'es une ballerine.
Non, c'est un nom trompeur. Il faut
Non.
prendre le nom dans sa totalité du ballet
OK.
jazz.
Ah bon. Puis est-ce que tu en fais encore de la danse?
Non, j'ai malheureusement repris ma retraite, donc ça devient une activité sporadique de laquelle je profite à chaque fois.
Ah bon. Fait que c'est un petit hobby, là. Que t'as gardé.
Ouais.
Moi, c'est pas si intéressant que ça. J'ai travaillé comme premier emploi là, au métro, à l'épicerie. Puis en fait, je sais même pas pourquoi ils m'ont engagée, parce que des fois, je rentrais sur les chiffres de travail, puis j'avais pas grand-chose à faire. Fait qu'on était deux à emballer. Fait que c'était pas très utile comme première expérience de travail, mais bon. Donc, c'est ça. Merci à vous d'être avec moi. Peut-être pourriez chacune un peu nommer. Bien, je vais commencer par introduire notre émission. Donc, aujourd'hui, on est le 7 mars 2021, soit la veille de la Journée internationale de la femme qui a lieu le 8 mars à chaque année. À l'occasion, on vous a concocté une petite émission sur le sujet. Avant de commencer, si on veut dire qu'on n'est pas des spécialistes sur la santé mentale des femmes, mais on voulait quand même vous partager le fruit de nos recherches sur le sujet. On veut vraiment sensibiliser la population à ces enjeux sociétaires qui ont un effet assez important sur la santé mentale de la femme et par le fait même sur notre société en général. Donc, la Journée internationale de la femme, c'est ça, comme le nom le dit, c'est international, mais la campagne cette année, le thème au Canada, c'est hashtag relance féministe. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite fortement à faire vos recherches après l'émission là, avec le hashtag relance féministe. Donc, mes collègues et moi, on va aborder cette journée, la COVID et son impact sur la santé mentale des femmes. On a chacune choisi un sujet là, qui nous touchait particulièrement, puis c'est ce qu'on va faire. On va partager ça avec vous à l'instant. Donc, avant que mes collègues présentent là, les enjeux qu'elles ont choisis, on va aller de façon plus générale. Il y a un sondage qui a été fait spécifiquement sur ce sujet, la santé mentale des femmes pendant le confinement et la COVID. Et les statistiques m'ont quand même touchée, mais m'ont pas surprise. Donc, en 2018, on notait que 66 % des femmes versus 71 % des hommes disaient avoir une excellente ou une très bonne santé mentale. Pendant la crise, on a noté un écart entre ces deux statistiques-là, où la santé mentale, la différence entre la santé mentale des femmes, l'écart s'est creusé, passant entre 5 à 11 de pourcentage. Donc, ainsi, là, le sondage ressort le fait que plus de femmes que d'hommes éprouvent là, souvent ou très souvent de l'anxiété, de la tristesse, de l'irritabilité et des difficultés à dormir. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet écart-là, qui expliquent aussi que l'écart s'est creusé entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, on va essayer de vous en présenter quelques-uns, mais il faut dire qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et nous, on a choisi donc, pour le principe de l'émission qui est seulement de 30 minutes, celle qui nous touchait le plus. Donc, Jade, pourrais-tu nous dire quel sujet tu as choisi là, pour l'émission d'aujourd'hui?
Oui, moi j'ai décidé de parler en fait de la violence conjugale là, vécue par les femmes. Un peu suite à la vague de dénonciation là, qu'il y a eu avant les fêtes, là, ça a quand même teinté l'actualité dernièrement. Je pense que c'est un sujet important à aborder là, aujourd'hui.
Oui, donc en effet, c'est un sujet qui est un sujet bon qui a toujours été présent, mais qui devient de plus en plus d'actualité. Je vous lis la définition là, pour donc. La violence conjugale se différencie principalement des chicanes de couple par le fait qu'il y a un déséquilibre dans la répartition du pouvoir entre les partenaires. Lorsqu'il y a de la violence conjugale, les épisodes de violence sont répétés et un des partenaires prend le contrôle de l'autre et adopte des comportements nuisibles envers lui. Donc, c'est la définition là, du gouvernement du Québec. Alors, Jade, pourrais-tu nous dire un peu, c'est quoi l'impact que la COVID a eu sur la violence conjugale au Québec?
Mais écoute, à l'heure actuelle, là, on n'a pas encore démystifié au complet là, tous les impacts que la COVID a pu avoir là, sur la violence conjugale au Québec. Par contre, selon Statistique Canada, on a été capable de dresser un certain portrait partiel, si on peut le dire. Là. En fait, on a remarqué qu'en avril, il y avait près d'une femme sur 10 qui avait déclaré avoir ressenti de l'inquiétude, en fait, quant à la possibilité de vivre la violence conjugale durant la crise de la COVID-19, qui est quand même le non négligeable, un 10 % de la population, on peut dire. Puis, en fait, là, entre le mois de mars et le juin, on aurait eu une hausse de 12 % des demandes d'intervention policière qui sont associées à des situations là, conflictuelles dans les domiciles privés. C'est sûr que ce 12 %-là, il est à prendre avec une certaine interprétation là, parce que c'est pas là tous les cas de violence conjugale en fait où les victimes vont être prêtes à demander de l'aide ou du moins là, à aller chercher à demander en fait là, les interventions policières.
Oui, donc je sais pas, on entend un petit bruit là en fond. Ouais. OK. Donc puis là, on parle de la COVID, de l'influence, puis là, il y a le confinement qui a été mis en place, il y a les mesures d'urgence sanitaire. C'est quoi l'impact que ça a eu lieu là, sur la violence conjugale?
Bien, définitivement, ça a exacerbé un peu les contextes là, de violence conjugale. Ça a aussi augmenté d'une certaine façon là, l'exposition des enfants et des adolescents qui sont dans les domiciles privés, leur exposition face à la violence. On peut aussi dire que ça leur rendu un peu plus difficile là, la séparation des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Donc, c'est plus difficile avec les mesures actuelles de quitter le domicile ou du moins de se séparer. Puis, on peut aussi mentionner là, que ça l'a, il y a eu en fait une augmentation du risque de violence, surtout avec l'amplification de certains facteurs. Là, si on parle de précarisation au niveau économique, là, il y a une augmentation du taux de chômage. On peut aussi là, avoir vu une augmentation de la consommation d'alcool, la consommation de certains drogues, l'affaiblissement aussi du réseau social. Fait que c'est toutes des choses en fait qui ont été exacerbées un peu par le confinement et les mesures d'urgence exceptionnelles qui ont été mises en place là, pour la pandémie.
En effet, puis si je peux rajouter à ça aussi, il y a le fait de certaines mesures sanitaires comme le couvre-feu là, qui est utilisé par les abuseurs comme une méthode de contrôle envers la femme. Donc, ça peut l'empêcher de sortir rechercher de l'aide, ça peut l'empêcher d'avoir accès à des services, ça peut l'empêcher d'aller même à l'hôpital lorsqu'il y a une situation de violence physique ou autre. Donc, c'est plusieurs facteurs, c'est ça comme tu l'as mentionné, qui s'ajoutent et qui créent un mauvais cocktail. Donc, tout ça ensemble, ça, c'est quoi l'effet que ça peut avoir justement sur la santé mentale là, concrètement?
Écoute, il y a eu quand même plusieurs effets. Il y a une étude là, qui est sortie qu'on pourra mettre en référence là, qui mentionnait qu'il y avait une augmentation des troubles anxieux, des troubles de l'humeur qui peuvent être associés aussi à ça, troubles du sommeil, perte de mémoire, troubles alimentaires. Là. Bref, les impacts sur la santé mentale là, sont nombreux.
Oui, puis justement dans cette étude, c'est vraiment intéressant parce qu'ils observaient aussi que certains facteurs influencent le risque de développer un trouble de santé mentale ou des symptômes là, de santé mentale. Donc, par exemple, avoir un système de soutien social, ça diminuerait les symptômes associés avec le syndrome de stress post-traumatique. Ça diminuerait aussi le niveau là, des symptômes dépressifs et ça pourrait aussi diminuer les symptômes d'anxiété chez les femmes là, lorsqu'elles recherchent de l'aide. Puis, ils ont vu aussi que quand il y a des symptômes, des stresseurs qui s'ajoutent à la violence conjugale, là, d'autres stresseurs que la violence, on observe un risque plus grand de développer un stress post-traumatique et même que ça serait le meilleur prédicteur là, qui indiquerait quelle femme pourrait développer un syndrome de stress post-traumatique. Puis aussi, j'ai trouvé ça intéressant, passer du temps dans une maison d'hébergement, c'est pas associé avec des symptômes dépressifs. Donc, il faut vraiment encourager les femmes à aller vers ces ressources-là, car c'est pas prouvé que ça pourrait avoir un effet détrimental sur leur santé mentale. Donc, on parle beaucoup, écoutez, des conséquences et tout ça. Quels sont les moyens qui peuvent être mis en place? Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été nommées, qui peuvent être mises en place là, dans ce contexte de crise actuellement?
Sur le site de l'UNESCO, il y a certains experts qui se sont prononcés. Par contre, ils sont quand même mitigés sur les effets que ça peut avoir là, encore sur le long terme, mais les pistes de solution, les pistes d'action qui ressortaient le plus, c'était vraiment de renforcer le message sociétal face à la non-tolérance de la violence, puis sensibiliser vraiment la population sur les risques que peut avoir la violence conjugale. Puis ça invitait les gens à être vigilants et à être bienveillants les uns envers les autres. On avait aussi là, agir sur certains facteurs de risque, puis en fait sur certains facteurs potentiels qui peuvent protéger les victimes. On parlait entre autres là, d'informer puis de sensibiliser les professionnels de la santé, puis en fait tous les autres acteurs là, des différents secteurs pour justement prévenir ou du moins être plus à l'affût de la violence conjugale. On parlait aussi de maintenir l'accès aux services d'aide puis aussi d'hébergement là, malgré le contexte actuel avec la COVID-19. Puis aussi le compiler les données là, pour nous permettre d'avoir des recensements plus clairs un peu là, pour le futur quant à la violence conjugale.
Donc, c'est ça, c'est plusieurs pistes là, de solutions pour améliorer la situation. Pour clore le sujet, il est aussi important de mentionner là, qu'il y a différentes ressources qui existent, que ce soit si vous êtes victime ou aussi si vous êtes témoin de violences conjugales. Il y a la ligne SOS Violence au numéro SOS Violence Conjugale qui est au numéro 1-800-363-9010. C'est une ligne d'écoute qui est ouverte 24/7. Et puis, si vous écoutez même l'émission, puis vous questionnez si vous-même auriez pu avoir des comportements violents envers votre partenaire actuel ou un ancien partenaire et que vous avez le désir de changer ces comportements-là, il y a aussi des ressources qui existent. Notamment, il y a la ressource qui s'appelle « À cœur d'homme » là, qui est une ressource qui peut vous diriger vers les ressources là, plus locales là, de votre région. Donc, le numéro de téléphone est le 1-877-660-7799. Puis, c'est vraiment important de dire qu'il n'y a pas de profil type d'abuseur, il n'y a pas de profil type de victime. Donc, il faut vraiment garder l'œil ouvert si on a des proches qui sont dans ce cercle-là. Donc, merci Jade de nous avoir parlé de ce sujet-là.
Merci à toi.
OK. Donc, on va passer à Amina, là, qui, elle aussi, a choisi un sujet pour en lien avec la COVID et la santé mentale des femmes. Veux-tu le présenter?
Oui, en fait, moi, j'ai pris l'angle de la situation économique qui touche les femmes en contexte de pandémie, parce qu'on sait qu'il y a un lien direct quand même entre la situation économique ou professionnelle et la santé mentale. Donc, ça serait sous cet angle-là que je l'aborderais.
Super, en effet, c'est très intéressant. On en parle beaucoup actuellement, l'économie, la relance économique. Ça a été vraiment au front là, de l'actualité avec les mesures sanitaires. Est-ce que tu peux nous décrire un peu c'est quoi l'état de la situation actuelle au Québec?
Tout d'abord, il y a certains secteurs qui sont davantage touchés, là, comme on peut se l'imaginer, avec notre nouveau mode de vie. D'abord, l'hébergement, la restauration, l'information, la culture et les loisirs. Puis, on retrouve une portion importante de la main-d'œuvre qui se retrouve à être féminine parmi eux. Sinon, il y a un rapport qui est sorti en décembre 2020 qui est fait conjointement par l'Observatoire québécois des inégalités et l'Association pour la santé publique du Québec, qui sonne l'alarme sur une diminution importante de l'emploi féminin. Le nombre d'emplois perdus chez les femmes serait même le double de celui chez les hommes. Il y avait un article de Radio-Canada là, qui relatait la situation actuelle et ce rapport-là. Puis on y apprend que les femmes doivent en plus grand nombre s'adonner à du télétravail, puis à des heures supplémentaires, en plus de devoir continuer à assurer leur rôle familial, puis qui a grandement augmenté en temps de pandémie, là, les enfants qui étaient plus nécessairement à l'école et qui devaient être présents toute la journée à la maison pendant que la maman travaillait.
Oui, c'est ça. Puis c'est quand même des grosses tâches supplémentaires en plus de l'horaire de travail que les femmes ont à avoir. Puis si je pouvais ajouter aussi un peu, en plus, tu as bien nommé, bon, il y a des pertes d'emplois qui sont majoritairement occupées par les femmes, mais il y a aussi des femmes en lien avec ce que tu nous dis qui ont quitté volontairement là, leur emploi là, pour être mieux capables de répondre aux tâches, aux nouvelles exigences que la COVID, le confinement exige là, de celles-ci. Alors, il y a vraiment deux phénomènes, une perte d'emploi, mais aussi des femmes qui quittent le travail là, à cause des restrictions imposées actuellement. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner peut-être un exemple là, qui permettrait là, de comprendre un peu la situation actuelle avec un secteur qui nous permettrait de voir concrètement, ça ressemble à quoi là, les pertes d'emploi là, féminins?
Bien sûr, pour bien saisir l'ampleur de la situation, on peut prendre un secteur qui est plus traditionnellement reconnu pour être masculin, par exemple le secteur manufacturier, pour bien illustrer la situation. Donc, avant la crise sanitaire, c'était environ 27% des employés du secteur qui étaient des femmes. Puis, on a observé un recul qui est important de la présence des femmes, soit de 20%. Pendant que la présence des hommes, elle a augmenté de 7%. Donc, on voit qu'il y a quand même un déficit, puis ce qui mène à une pénurie d'employés qu'on ne peut pas combler en retournant rechercher des femmes vu la situation actuelle. On peut considérer que c'est un retour en arrière, puis qui est au final une situation désavantageuse pour tout le monde, ce qui résulte en une pénurie de main-d'œuvre.
Fait que c'est un excellent exemple qui, en tout cas, qui nous permet d'avoir une image là, de la situation, là. C'est quand même des chiffres frappants. Donc là, on a un peu mis la table, on a expliqué c'est quoi la situation, mais quelles sont les conséquences actuelles et aussi les conséquences là, potentielles de ces changements-là au niveau de l'emploi?
C'est ça, pour en revenir au rapport là, dont j'ai parlé un peu plus tôt, il met en lumière les impacts de la pandémie, puis on peut penser au risque de contracter la COVID en raison de la prédominance des femmes dans le système de santé. Là, le lien est facile à faire, elles sont plus exposées en occupant des postes dans le système de santé. On peut penser aussi à une augmentation de la charge familiale de par la fermeture des écoles ou le changement du régime scolaire. Aussi, un revenu qui est diminué, puis une augmentation des situations de violence et d'exploitation dont vous aviez parlé un peu plus tôt. Donc, au final, le fardeau familial s'est alourdi. De par leur rôle traditionnel, les femmes ont été davantage touchées. Avec ça, va venir une précarité sociale, puis un impact important sur la santé mentale et même physique chez la femme. Puis cette situation, elle nous fait craindre un recul des égalités des sexes, du terrain qui avait été durement gagné au cours de plusieurs combats dans l'histoire. Puis aussi, le rapport démontre que 51% des femmes ont trouvé difficile de concilier la vie personnelle et familiale avec le travail et ou les études. Puis on peut même penser que c'est 71% des femmes entre 18 et 34 ans qui trouvent ça épuisant de s'occuper des enfants tout en faisant du télétravail.
Donc, ça permet bien de voir que le confinement, la COVID, les impacts que ça peut avoir donc dans les situations, dans les familles, dans les ménages québécois, et même, comme tu l'as dit, les gains qu'on a pu avoir là, dans l'histoire des femmes, certains gains pourraient être perdus. On a aussi beaucoup parlé des travailleurs essentiels. Je sais pas si vous voulez nous glisser un mot là-dessus, considérant que sinon je peux me prononcer là. Tu sais, on a beaucoup parlé de travailleurs essentiels. On dit que les femmes sont surreprésentées dans ces emplois-là. On a juste à penser aux éducatrices à la petite enfance, les préposées à l'entretien ménager, caissières dans les épiceries. C'est des emplois qui, malheureusement, sont sous-payés, qui ont des grandes responsabilités. Et comme tu l'as dit, c'est des emplois qui aussi sont exposés à la COVID, donc qui sont au front là actuellement. Et tout ça, le fait d'être exposé à la COVID, ça peut augmenter l'anxiété. Et ce ne sont pas des corps de métier qui reçoivent tous la reconnaissance là, équitable qu'elles méritent. Donc, en lien avec les gains qu'on discutait au niveau de l'emploi, ça nous met à se re-questionner un peu la valeur qu'on attribue aux emplois qui sont majoritairement féminins. Il y a aussi, pour continuer, est-ce qu'il y a certaines recommandations qui peuvent être faites pour s'assurer qu'il y ait une meilleure égalité en matière d'emploi dans ce contexte de crise et de pandémie?
Absolument. Par exemple, l'Association pour la santé publique du Québec a fait plusieurs recommandations là, que je peux vous résumer en, par exemple, appliquer une analyse différenciée selon les sexes et l'intersectionnalité dans les règlements, les lois et les politiques qui vont être prises pour réduire les inégalités, notamment entre les hommes et les femmes, puis avoir un plan d'action là, vraiment pour une meilleure conciliation vie familiale et vie de travail.
Et si je peux rajouter à ça aussi, donc au niveau des lois, des politiques, comme tu le mentionnes, l'importance d'avoir une relance économique qui inclut les femmes. Il faut se rappeler, donc la dernière crise économique qu'on a vécue au Québec, c'était en 2008-2009. Les mesures qui ont été mises en place ont surtout avantagé les emplois majoritairement occupés par des hommes. On a juste à penser au plan Nord, aux infrastructures de transport, donc beaucoup aussi les entreprises de la construction. Il y a même là, l'analyse de l'Institut de recherche et d'information socio-économique qui dit là, que ça aurait profité deux fois plus aux hommes qu'aux femmes, cette relance économique. Il faut aussi se rappeler qu'il y a eu les mesures d'austérité, et puis ça s'est traduit par moins de personnel, moins de gens qu'on embauchait dans le milieu là, de la santé, le milieu de l'éducation, les milieux les milieux secteur public qui sont surtout occupés par des femmes. Donc, faut vraiment s'assurer qu'une reprise économique implique les femmes. Puis ça revient avec le thème canadien là, qui hashtag relance féministe. Donc, merci beaucoup, Amina, d'avoir présenté sur ce sujet.
Avec plaisir, mais si tu le permets, Yasmine, j'ajouterai quelques petites informations que j'ai découvertes au cours de mes lectures, qui sont plus d'ordre international, que j'ai trouvé intéressantes de ramener. Là. Cette problématique-là, en fait, serait même d'envergure internationale là, quand on parle d'impact sur la situation des femmes de la crise sanitaire ou de la pandémie. Puis on peut penser là, à l'ambassadrice du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité, qui rapporte que certains leaders utilisent la crise sanitaire pour brimer les droits des femmes et des minorités sexuelles et de genre. Donc, faire un retour en arrière là, au niveau de leurs droits. Puis, un autre fait que j'ai trouvé intéressant à rapporter, même s'il n'est pas vraiment en lien avec la pandémie, mais elle va rapporter aussi que dans certains pays, les femmes sont sous-impliquées dans le processus de paix, alors que leur participation viendrait améliorer l'efficacité opérationnelle des forces de sécurité. Et ça, c'est grâce à leur perspective plus étendue sur le fonctionnement d'une communauté. Puis je trouvais ça très flatteur, alors j'avais envie de le partager avec vous toutes.
Oui, merci pour l'ajout d'informations. C'est vraiment intéressant, là. C'est ça, c'est une journée qui est internationale, donc c'est pertinent d'avoir cette perspective-là. Et on a pu le voir, là, je crois qu'on a tous entendu parler, là, des pays qui ont été qui sont menés par des femmes ont aussi eu des bonnes gestions de la crise. Enfin,
Ouais.
on a pu l'entendre. Oui, comme la Nouvelle-Zélande,
Nouvelle-Zélande,
par
c'est
exemple.
ça. Hein?
Et puis il y en a d'autres là aussi, mais je veux pas me tromper, m'avancer là-dessus. Puis, je trouve ça intéressant aussi qu'est-ce que tu dis sur le volet international. Et puis, pour avoir une perspective plus globale là, de la situation actuelle, là, on parle des femmes, la violence conjugale, l'instabilité économique chez les femmes, mais il faut se rappeler que c'est même dans les groupes de femmes, certaines sont plus à risque de précarité financière, c'est-à-dire les femmes qui vivent avec un handicap, les femmes qui sont issues de minorités ethniques, minorités raciales, les femmes qui sont aussi des minorités LGBTQ. Donc, c'est pour ce mouvement-là de relance féministe, ça doit aussi d'impliquer toutes les femmes, là, peu importe là, leur situation de vie et les c'est éviter de la discrimination entre femmes. Donc, écoutez, le temps file. Moi, je voulais terminer avec le concept de charge mentale là, rapidement. Il faut se rappeler, bon, qu'aujourd'hui, bon, on essaie, les femmes et les hommes, il y a plus de répartition des tâches domestiques, mais les femmes demeurent quand même celles là, qui occupent plus de temps aux tâches domestiques. Mais il faut se rappeler aussi qu'il y a plus de charge mentale. C'est quoi la charge mentale? C'est l'organisation, la gestion, la planification des tâches ménagères. C'est des tâches qui font que les femmes sont moins disponibles au travail qui est rémunéré parce qu'elles doivent s'occuper de la maison. Et là, pendant la COVID, c'est exacerbé parce qu'il faut s'occuper des enfants avec, par exemple, l'école à distance, mais il y a aussi les parents vieillissants que les femmes s'occupent beaucoup. Et là, avec le confinement, moins de ressources qui sont disponibles, il faut plus compenser par la famille. Bon, et plusieurs autres choses là, qui peuvent expliquer ça. Alors, ça amène à de l'épuisement, de la fatigue. Alors, les conseils, c'est vraiment là, de s'asseoir en famille puis de s'assurer qu'on répartisse les tâches, mais pas seulement les tâches ménagères, mais aussi les tâches de gestion familiale. Donc, c'est un mot rapide que je vous glisse parce que le temps file. Vraiment, aujourd'hui, on voulait faire une émission spéciale sur la COVID, la santé mentale chez les femmes. On n'a pas le temps de tout couvrir. C'est un sujet qui est assez vaste. Comme Jade l'a mentionné aussi, il n'y a pas encore beaucoup. On n'a pas toutes les statistiques, on n'a pas tous les chiffres encore. On est encore en plein cœur de la crise, de la pandémie. Donc, on a juste essayé de vous sensibiliser sur le sujet. On espère que vous avez trouvé ça intéressant. On vous invite vraiment à faire vos recherches si certains sujets vous n'étiez pas vraiment familier avec. Et on vous souhaite une excellente journée internationale de la femme demain. Donc, je remercie encore mes collègues Amina et Jade d'être présentes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, 11h30. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci à toi, Yasmine.
Merci.